podcast. Le podcast hors série. Podcast hors série. Une présentation de Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts. De la micro d'exception à la micro de soif parfaite. Deux succursales, Beauport et Saint-Émile. Santé.
Bonjour la gang de Boulevard, on est au podcast La Série hors série. J'ai le bonheur d'être avec Alicia Despins, conseillère municipale présentement à Québec, mais qui va quitter là, prochainement. Alicia, merci d'avoir accepté l'invitation.
Ça fait plaisir, très contente d'être ici.
Yes. Pourquoi tu as accepté justement d'être dans ce podcast-ci de La Série hors série de Boulevard?
Ça me fait plaisir, je pense, de à la fin de mon parcours politique, d'en parler. Mais c'est surtout parce que je trippe balado, je trippe podcast. Fait que d'être dans un podcast, là, regarde, moi, je suis super contente d'être ici. Là.
Quel podcast t'écoutes le plus?
J'écoute beaucoup, évidemment, podcast d'actualité. Là. Mm-hmm. C'est sûr que... Celui qui revient à chaque jour, c'est The Daily du New York Times. Je trouve que le format il est vraiment super là, d'aller creuser dans un seul sujet. Mais je suis assez diversifiée. Y a un podcast qui s'appelle... pour bien faire, là, je l'oublie, là, mais c'est à la radio publique en France là, sur de la nourriture. Fait que, regarde, c'est très, très diversifié. Là. Mais ça tourne autour de ça. Nourriture, actualité, j'écoute pas Sortie du bois aussi, sur le trail, la course. Fait que, ouais, un peu de tout.
Est-ce que tu suis beaucoup l'actualité politique américaine, politique internationale?
Oui, politique américaine, politique internationale, les deux, politique québécoise, évidemment. Là, de ce temps-ci, je suis beaucoup dans la politique municipale, pas juste à Québec, mais partout au Québec. Là, je suis différentes campagnes aux quatre coins du Québec, pour vrai. Mais c'est sûr que mon projet de doctorat, c'est sur la diplomatie municipale. Donc, par la nature de mon projet de thèse, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe partout à travers le monde.
Projet de doctorat en diplomatie municipale, tu as été la plus jeune conseillère de l'histoire, justement, de la ville de Québec. Comment tu es tombée dans la politique?
Oui, je suis tombée dans ma marmite. C'est vraiment ça. Là, je l'ai fait l'exercice de retracer le fil de ça. Pourquoi? J'ai toujours été très impliquée quand j'étais jeune, au primaire ou au secondaire. On dirait que c'est une façon pour moi là, de me sentir valorisée.
Dans
de,
les conseils
c'est
étudiants.
Ça, exact. Dans tout ce qu'il y avait, les pièces de théâtre, l'organisation de levée de fonds, toutes ces affaires-là. Puis, arrivée au cégep, encore une fois, j'étais impliquée dans l'association étudiante. Puis, de fil en aiguille, bien, éventuellement, c'est devenu une implication politique. J'étais au cégep en 2012 pendant le printemps érable. Fait que là, on était très impliqués dans tout ce mouvement étudiant-là. Puis quand ça a fini, on dirait qu'il y a eu un vide dans ma vie. Là. Puis il fallait que je le remplisse de politique. Puis à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté de m'impliquer. Là.
Est-ce que tu t'es inspiré des leaders de cette époque-là? Gabriel Nadeau-Dubois, Martine Desjardins, Léo Bureau-Blouin?
Bien, c'est sûr qu'à l'époque, c'était des gens qui m'inspiraient, que je regardais de loin, puis que je trouvais vraiment... fou de les voir parler à l'âge qu'ils avaient, tu sais, d'avoir cette aisance-là. Je pense que ça venait me chercher beaucoup parce que j'ai toujours été quelqu'un de très introverti qui n'avait pas cette facilité-là à parler en public, à véhiculer mes idées clairement non plus. Fait que je trouvais ça très impressionnant. Mais je pense pas que c'est pas nécessairement des figures qui ont été marquantes pour moi là, dans le développement de ma personnalité politique, disons-le comme ça, là, ça a davantage été cette implication-là dans le mouvement en général, surtout avec mes amis de l'époque au cégep, dans l'association étudiante, avec qui je suis encore amie, avec qui on a chacun des parcours différents.
Est-ce qu'il y en a en politique présentement, de ces amis-là?
Il n'y en a pas en politique. Il y en a un, en fait, qui est mon directeur de thèse, Philippe Dubois, qui commente l'actualité municipale souvent. Il y en a un autre, Frédéric de Beaumont, qui a été impliqué là, avec Québec Fort et Fier. Donc, c'est ça, c'est des personnes qui ont poursuivi leur engagement politique, pas nécessairement tout le temps de la même façon. Puis je pense des fois, on pense que pour être impliqué en politique, il faut se présenter, il faut être élu. Mais pour moi, c'est pas ça l'engagement politique. Là. Ça peut prendre de, toutes sortes de formes.
Mm-hmm. Comment c'est arrivé, justement, le fait de dire « OK, je me présente en politique ». C'était le parti d'équipe La Bombe à l'époque. Est-ce qu'on est venu te chercher? Est-ce que c'est toi qui les as approchés? Comment ça s'est fait, ce merge-là?
Oui, moi, j'ai... Puis on parlait de figure marquante. Une personne marquante pour moi, ça a été Geneviève Hamelin, qui était conseillère municipale dans Mézeray pendant, si je me trompe pas, 12 ans. Puis Geneviève, je l'avais approché dans cette période-là au cégep, justement, où je voulais m'impliquer davantage en politique. Puis la campagne de 2013, ouais, 2013, c'est ça, ouais. Municipale approchée. Puis je voulais voir s'il y avait possibilité. Je pense que j'avais 18, 19
ouais,
ans.
C'est ce
là,
que j'allais dire, 2013.
C'était pas. j'étais. Tu sais, je suis la plus jeune élue de l'histoire, mais là, j'étais jeune, après, jeune. Là,
oui.
C'est ça. J'étais super motivée, puis Geneviève m'avait donné des trucs. J'ai tout fait les étapes. J'étais allée rencontrer Louis Côté, qui était le chef de cabinet de Régis Labombe. Puis finalement, ben, tu sais, ça n'avait pas marché. Je pense qu'on était en train de jaser. Comment j'allais faire pour finir mon cégep, puis que, tu sais, j'essaie d'avoir des cours juste le vendredi, ou en tout cas, tu sais, c'était pas...
évident à ce moment-là.
Fait que ça a pas marché. Finalement, je m'étais engagée comme directrice de campagne pour l'élection de 2013 pour un candidat d'équipe La Bombe. Puis après ça, ben, j'ai travaillé un peu pour le parti comme recherchiste à contrat pour l'analyse là, des données politiques. Puis, par la suite, je suis allée au provincial faire mes armes, là, d'une certaine façon, là, en cabinet, donc comme attachée politique aux communications. Fait que j'ai fait mes classes, finalement, mais à chaque année, je renvoyais une lettre au parti politique, à l'équipe La Bombe. Je disais « Bonjour, j'existe, je suis très intéressée, je veux me présenter.
Wow. »
Puis quand l'opportunité s'est présentée, finalement, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui se désistent, il faut qu'il y ait des gens qui ne se représentent pas.
Mm-hmm.
Quand Natacha Jean, qui était la conseillère municipale dans Vanier, a décidé de ne pas se représenter, ben là, j'ai eu un appel du directeur du parti qui savait clairement que j'étais intéressée et que j'étais prête à y aller. Là.
Comment tu as réagi à ce moment-là quand tu reçois cet appel-là tant attendu? Tu le dis à chaque année, j'écris une lettre et j'espère que je vais être sélectionnée.
Regarde, c'était comme moi, je suis une femme d'Harry Potter. C'était comme recevoir la lettre là, de Poudlard. Là, ah, c'était vraiment pour vrai. Puis j'avais 22 ans. T'sais. Ils m'ont appelée. J'ai répondu au téléphone. Puis c'était comme un moment de « c'est trop beau pour être vrai ». Ça se peut pas, là. Puis là, Alicia, ouais, t'es-tu encore, ça te tente-tu encore? On aurait une place pour toi. Faudrait que tu viennes demain, telle heure, rencontrer Louis puis Régis. Ben oui, parfait. Mmh. Puis là, demain, telle heure, je rencontre Louis. Après ça, Régis rentre dans la pièce, je rencontre Régis, on se serre la main, voilà, c'est fait. Puis 48 heures plus tard, on me présente comme candidate.
OK, fait que pas plus compliqué que ça. T'as pas eu à vendre ta salade à Régis Labombe. Il avait déjà été informé, puis il dit « Alicia Despins, c'est ma femme pour Vanier. »
Bien, il y avait un enjeu de temps. Tu sais, mm-hmm. Quand les étoiles s'alignent, les planètes s'alignent plutôt, oui. Là, c'était un peu ça. Je pense que tout ça, ça devait être au mois de juin 2017. Fait que là, on était... habituellement, les équipes politiques sont pas mal, surtout un parti qui se représente, qui est déjà au pouvoir, sont pas mal pleines à ce moment-là. Fait que c'était dans les dernières candidatures. Régis Labombe voulait que son équipe soit complète à cette date-là. Fait que je venais répondre à ça parce que approcher une nouvelle personne, tu sais, souvent les gens, quand ils n'ont pas pensé ça, ils n'ont pas pensé à s'engager en politique, à se présenter. Là, ça peut prendre plusieurs semaines. OK, mais il faut que j'en parle à mon employeur. Comment je vais faire ça? Moi, j'ai démissionné de ma job. Là. J'étais prête à tout faire ça. J'ai déménagé dans le quartier. Fait que j'étais vraiment willing. Fait que je répondais à
parce que tu n'habitais pas dans Vanier à ce moment-là.
Non, j'habitais pas dans Vanier. J'habitais proche de l'Université Laval. Okay. Fait que je venais de signer un bail. Là, j'ai cassé mon bail, trouvé un autre appart. En tout cas, c'était quand même... Ça a été une grosse semaine. Ouais.
Qu'est-ce que tu connaissais de Vanier à ce moment-là? Puis qu'est-ce qui a évolué dans ta connaissance de Vanier avec le temps?
Je connaissais quand même le quartier parce que j'avais beaucoup d'amis là, au secondaire qui étaient dans ce coin-là. Je suis née à Vanier. Sur mon passeport, okay. Il est écrit Vanier. Là, comme beaucoup des enfants des années 90, on est tous nés à
Moi, je suis née à côté dans Saint-Sauveur.
Ouais, c'est ça.
Mais je suis née à Christ-Roi aussi.
Ah oui?
Ben oui.
Ben, t'es née à Vanier, d'abord.
Ben, c'est vrai. Je suis née à Vanier, finalement.
C'est ça.
Bon. Je viens d'apprendre ça grâce à toi. C'est vraiment le fun.
Oui. Oui. Fait que, tu sais, je connaissais le quartier comme je connais Québec. Je me suis promenée beaucoup. On a déménagé beaucoup quand j'étais jeune. Fait qu'il n'y a pas de quartier que je connais plus qu'un autre, nécessairement. Là, tu sais, je les connais toutes comme un peu en superficie. Je connaissais un peu du Berger parce que mon frère et ma sœur étaient allés à l'école à Everest là-bas. Fait qu'on s'était promené quand même un peu dans le coin. Fait que c'était à peu près ça, mes connaissances. Puis là, ça, je pense que je ne l'ai jamais dit avant. Mais en me présentant à la conférence de presse en 2017 pour annoncer ma candidature, je ne savais pas que le district, c'était Vanier du Berger.
Alors, tu fais juste parler de Vanier?
Bien, moi, j'arrive là. Ouais. Avec en tête que mon district, c'est Vanier. Puis quand on me présente, on me dit candidate pour Vanier du Berger. Puis là, ça, là dans ma tête, il a fallu que je m'ajuste. Puis, tu sais, je m'en suis bien sortie.
Ouais,
ça
n'a
pas paru. Pour vrai, je pense que c'est la première fois que je le dis. Je viens d'avoir un flash de ce moment-là, de dire, oh, palais, tu sais, parce que la carte électorale avait changé entre 2013 puis 2017.
OK, donc en 2013, c'était Vanier, là, c'est devenu Vanier du Berger.
Natacha était conseillère municipale de Vanier, puis là, la carte avait été changée.
Ça, c'est parce qu'on a changé du Berger les sols pour les sols, les méandres
exact,
aussi, hein, je pense.
C'est ça. Ouais.
Parfait.
Fait que c'est tout le temps des transferts de population. Le Bourgneuf grandit beaucoup, fait qu'on change les cartes. Fait que pour moi, ça a été. Une belle surprise, finalement. Mais là, j'avais fait mes devoirs sur Vanier. Puis là, finalement, il fallait aussi que je fasse mes devoirs sur du Berger parce que c'est un quartier qui est très différent. Là. C'est pas un seul et même quartier. Là.
Est-ce que ça t'a fait faire tes devoirs à vitesse grand V pour du Berger? J'imagine que oui.
Est-ce que comment?
Ça t'a fait faire tes devoirs à vitesse grand V pour du
sûr.
Berger?
Ben oui, c'est clair, c'est sûr. Oui. Fait qu'après ça, je suis allée faire un tour. Bon, OK, parlant du monde, c'est de voir c'est quoi les enjeux, c'est quoi les tu sais, y a-t-il des enjeux similaires aussi? Finalement, à travers tu sais, mes deux mandats, ça a été beaucoup de y en a pas énormément, des enjeux similaires. C'est deux quartiers très différents. Les organismes communautaires aussi sont très séparés. Là, t'sais, les organismes qui œuvrent dans du Berger œuvrent dans du Berger, ceux qui œuvrent dans Vanier œuvrent dans Vanier. Fait que, c'est ça. J'ai vraiment comme eu deux quartiers à m'occuper pendant ce temps-là, puis des dossiers différents à préparer. Là.
À quel point les connaissances que tu avais acquises avant de te présenter, c'est-à-dire chef de cabinet durant la campagne 2013, attaché politique, attaché aux communications au niveau du gouvernement provincial, t'ont aidé dans cette campagne électorale-là, ta première?
C'est sûr que pour la logistique de la campagne électorale, ça a été très, très utile, très pratique, là, parce que... Puis on le voit souvent, moi, en ce moment, je mentore des jeunes qui se présentent pour la première fois. C'est un peu... C'est un peu opaque comment ça se passe, une campagne électorale. Fait que moi, j'avais pas cet apprentissage-là à faire, ou en tout cas très peu, parce que j'en avais déjà fait plusieurs. Je savais comment ça marchait, je connaissais les différentes mécaniques. Telle date, on va poser les pancartes électorales, il faut que je fasse du porte-à-porte, etc. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidée, puis ça m'a permis de dégager du temps aussi dans ma portion d'apprentissage pour vraiment me concentrer sur les différents dossiers. Puis Équipe La Bombe m'avait préparé un genre de cahier avec des fiches sur chacun des grands enjeux, sur chacun des engagements. Fait que j'étais vraiment comme... Finalement, j'étais un peu comme à l'école. Là. J'étais en étude de ces différents dossiers-là, puis j'essayais de... C'est juste, mettons, le budget de la Ville de Québec. Là. Je veux dire, quand on est dedans, on l'apprend sur le top, on le travaille, puis là, comme élu, on passe deux semaines dans la salle du conseil à l'étudier de fond en comble. Mais quand tu arrives avec une fiche puis tu essaies d'apprivoiser le budget de la Ville de Québec, j'avais 22 ans, c'est pas évident. Là.
Non, c'est clair, il doit y avoir plein de termes que... Tu connais pas, dans le fond, à ce
ben
moment-là.
Ben non, c'est ça. Puis c'est tout, c'est des termes comptables, puis comment ça marche. Mm-hmm. Même juste l'idée d'une dette, sais,
Oui, comment qu'on fait pour rembourser la dette, ouais, l'intérêt, c'est... on le paye comment, tu sais, tout ça, c'est quand même assez complexe, ça, comme...
Oui, les cotes de crédit, puis, tu sais, dans nos... Puis, gérer une ville, c'est pas comme gérer un portefeuille individuel. Fait que moi, si j'ai 50$ sur ma carte de crédit, bien, peut-être que je veux le rembourser, mais peut-être que pour la Ville de Québec, avoir 50$ sur sa carte de crédit, c'est une bonne affaire pour pouvoir investir, puis aller chercher... un investissement, tu sais, éventuellement, parce que ça développe l'économie. Puis bon, fait que c'est un peu plus complexe, ouais. C'est ça.
Tu as 22 ans à l'époque, tu arrives justement dans une machine très bien huilée, c'est-à-dire celle d'équipe La Bombe. On est en 2017, Régis s'apprête à faire son dernier mandat à ce moment-là. Bon, il ne sait pas en 2017, mais on le sent en cours de mandat. À quel point on te fait confiance, tu sais, parce qu'on parle beaucoup que la politique, c'est un milieu d'hommes, c'est un milieu de tough, c'est un milieu de boys club. À quel point tu fais confiance dès le départ?
Beaucoup, pas mal plus que je pensais. Puis même aujourd'hui, on dirait que c'est comme beaucoup pour moi à réaliser. Puis Régis Labombe signait un éditorial, une chronique cette semaine, je pense,
ouais,
dans la presse. Là, sur la culture. Puis dans son bilan, finalement, qu'il fait de la culture, ben, il me nomme comme étant un de ces éléments-là, d'avoir nommé la plus jeune élue de l'histoire de la ville à 23 ans, Alicia Despins, responsable de la culture. Pour lui, c'est un accomplissement. T'sais. Fait que cette confiance-là, elle, ben, c'est sûr qu'elle s'est incarnée par le fait de me prendre dans son équipe, d'abord et avant tout, parce que c'était de prendre une chance. T'sais. Je veux dire, j'ai 22 ans, j'ai beau avoir un peu d'expérience en politique, on le sait pas. Puis après ça, ben, de me nommer au comité exécutif responsable de la culture, puis Régis, pendant quand on a fait cette annonce-là, quand il dévoilait son comité exécutif, il disait « Les jeunes, souvent, on leur donne des responsabilités pour bien paraître, de manière symbolique. » Puis il parlait faisait le parallèle avec le ministère du Revenu, tu sais, qui est un ministère où, finalement, le revenu, il rentre, là, tu sais.
Oui, fait que t'as pas nécessairement besoin d'un gestionnaire pour que le revenu rentre.
C'est pas la personne qui va être dans les médias à défendre différentes choses, là. Fait qu'il disait, moi, il est pas question que je donne le ministère du Revenu à une jeune au conseil. Je vais lui donner une vraie responsabilité. Puis à Québec, ben, la culture, les grands événements, c'est une vraie de vraie responsabilité. C'est super important. Ça prend une très grande place.
Oui, d'autant plus que Régis venait de ce milieu-là, notamment avec le Festival d'été de Québec. Es-tu surprise quand il te dit « Hey, Alicia Despins, tu sais-tu quoi, je te donne la culture? »
Très surprise. Ouais. Très surprise. Puis tu sais, il y a un peu... c'est un peu méconnu, mais ça se passe un peu comme au provincial. Là, on vient de vivre un remaniement ministériel, mais c'est exactement la même chose. Fait que là, tout le monde dans le même 6 heures est convoqué au bureau de Régis Labombe. Puis là, on arrive là, un à tour de l'autre. Tu croises la personne qui vient de sortir, qui essaie d'avoir un poker face. Puis là, tu rentres. Puis là, Régis s'est dit, regarde, Alicia, je vais te donner la responsabilité de la culture, de la technoculture, des grands événements. Puis c'est ça que je veux qu'on mette de l'avant pour les 4 prochaines années. Je vais te présenter telle personne qui vont t'accompagner dans tout ça. Mais je veux voir des résultats, puis je veux que ça se passe.
Wow! T'as-tu été capable d'avoir ta poker face en sortant ou t'étais trop heureuse?
Oui, j'étais capable d'avoir ma poker face, mais c'est plus parce que j'étais comme... sous choc, pour vrai. Ouais. Oui. Fait que là, j'y sens la main. Ben merci beaucoup. J'étais un peu émue. Je pense que je le réalise pas. Puis là, je sors. Puis là, je croise l'autre personne qui s'apprête à entrer. Je garde ma poker face. Puis là, c'est ça. Je comprends pas trop ce qui se passe. Là. Puis je pense que je comprenais pas à ce moment-là non plus l'implication parce que on avait été élus avec, si je me trompe pas, 18 conseils municipaux sur 21. Fait que le fait de me nommer, ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas nommé quelqu'un d'autre. Fait que ça fait des jaloux, c'est certain, dans l'équipe. Il y a des gens qui sont là depuis plusieurs mandats.
T'as-tu vécu un peu d'intimidation à l'interne avec ça?
Ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu d'un élu qui a quitté l'équipe pas longtemps après, là, qui dit « Ah, toi, la petite, là... » Fait que... Puis après ça...
Comment t'as réagi à ça?
Ben sur le coup, moi, j'ai pas de répartie pour ces affaires-là. Là. Je suis pas sanguine là, à relancer des affaires. Là. Fait qu'on dirait que je le prends, puis je sais pas trop quoi faire avec. Puis éventuellement, je laisse ça aller. Puis, fait que j'ai
Est-ce que tu as reparlé à cette personne-là?
Non.
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 T'as dit, c'est fini, on
non,
met de côté.
Non, c'est ça. Cette personne-là, finalement, a quitté l'équipe quelques mois plus tard. Mm-hmm. Puis, on n'a jamais eu à travailler ensemble. Okay. C'est pas une personne qui s'est représentée non plus. Ouais. Ou en tout cas, je pense pas. Fait que c'est pas quelqu'un... Je pense que ça aurait été différent si ça avait été quelqu'un avec qui j'avais été en contact souvent, qu'il avait fallu que je travaille.
Ouais.
Là, j'ai pas eu à gérer ça. Tu sais, c'était un commentaire qui, moi... m'ouvrait les yeux finalement sur ce que ça représentait de me nommer au comité exécutif comme impact aussi sur les autres.
C'est-tu là que tu en as pris conscience de dire « OK, ouais, il a vraiment fait confiance à moi, Alicia Despins, que juste 23 ans? »
Bien, je pense que ça faisait partie. Puis ça faisait partie de cette prise de conscience-là. Puis quelques semaines plus tard, tout ça, c'est dans les premiers jours, mais là, bon, on s'installe, on commence à prendre notre rôle finalement. Puis quelques semaines plus tard... Louis Côté nous convoque, Émilie Villeneuve et moi à son bureau. On est comme un peu les deux nouvelles, finalement, okay. Sur le comité exécutif. Puis il nous dit, regardez, il s'était pas passé quoi que ce soit, mais c'était une intervention. Il dit, regardez, c'est la première fois que vous faites ça. Enflez-vous pas la tête. Restez bien ancré au sol. C'est ça. Faites attention à votre ego.
Fait une petite mise en garde.
Ouais, petite mise en garde. Puis ça, à chaque jour ou à chaque fois que je sentais là, que j'étais sur un trop gros nuage, par exemple.
Le temps, c'est un peu trop
là,
bombé.
J'avais la voix de Louis Côté dans ma tête qui disait attention, ah, là, tu sais, bon, attention, ça. Ramène-toi sur terre, tu sais, de se ramener aussi à l'important. Puis faire attention aussi aux gens qui sont autour. Là.
Ben oui. Parce que ça reste des collègues de travail.
Parce que ça reste des collègues de travail.
Des ouais. gens avec qui tu vas travailler, ouais. évidemment. Dans ce qui est arrivé dans l'interaction qui est arrivée avec toi, la petite jeune, ça, est-ce que tu sais qu'il y a des membres de l'équipe qui avaient reparlé à cet individu-là pour dire « Hey, t'empères-toi » ou pas du tout, ça a passé
non,
comme
ben,
du bon emploi?
Pas à ma connaissance. Là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a entendu mm-hmm. non plus. Là. C'était comme chuchoté.
Une technique
ouais,
d'intimidation.
C'est ça,
là.
C'était pas... J'ai pas eu connaissance, en tout cas, ouais. d'une intervention quoi que ce soit à cet égard-là. Mais j'ai vécu d'autres événements.
Je posais comme question, comme jeune politicienne, tu arrives à 23 ans, tu fais un premier mandat, en voilà un deuxième. Je sais que ça a brassé beaucoup à l'Hôtel de Ville à l'hiver 2024. Est-ce que tu en as vécu plusieurs événements d'intimidation? Puis est-ce que c'est vrai que les gars en politique, on a tendance à brasser les filles?
Bien, c'est ça. J'ai vécu toutes sortes d'affaires. Puis si on met ça sur un spectre, là, il y a de tout, finalement, là-dedans. Là. Puis je ne sais pas à quel point c'est représentatif de ce que d'autres vivent. Là. Je sais qu'au Québec... On est dans une drôle de période.
Ben vraiment, tu sais, je lisais au-delà de 700 candidats et ben même pas candidats, au-delà de 700 élus au municipal qui ne se représentent pas en 2025.
Je pense qu'on approche, ouais, c'est ça. Puis je pense que en ce qui trait aux démissions, je pense qu'on approche du 15% si je me trompe pas.
Oui,
là,
exactement.
On a dépassé le 10 puis c'est en croissance. Il y a encore des gens qui démissionnent.
À l'approche des élections.
Là, c'est ça. Mm-hmm. Là. Fait que, puis dans les différents exemples, dans le mandat, parce que tu posais la question, tu sais, est-ce qu'il y a eu une intervention? Moi, il y a eu un événement qui m'a marqué. C'est un responsable ou un directeur là, d'un événement qui avait l'habitude, lui, de faire affaire avec le cabinet du maire. En tout cas, lui, il se pensait bing, puis lui, il faisait affaire juste avec Régis Labombe. Là,
fait t'sais. Que là, il voit la petite kid, Alicia Despins, arriver, puis il disait, toi, t'as soin de là, moi, c'est avec
ça.
Le maire que
fait
je parle.
Fait que là, on est en rencontre, il vient vendre ses affaires. Il y a moi, le chef de cabinet, Régis Labombe, cette personne-là, puis peut-être deux ou trois fonctionnaires, puis il parle juste à Régis. Puis lui.
Régis moi, réagit comment dans ce temps-là?
C'est ça, moi, j'essaie de placer un mot, puis c'est pas une très longue rencontre, là.
Oh,
ça,
oui.
c'est, tout ça, ça s'est passé peut-être en 3-4 minutes, puis à un moment donné, Régis a dit: garde, c'est super intéressant ton affaire, mais c'est avec Alicia que tu vas régler ça, puis il est parti.
Wow!
Puis il est parti, puis là, il est venu rouge, parce que. Tu sais, c'était un peu de le remettre à sa place, là, en
ouais.
disant la responsable, c'est Alicia. Puis si Alicia a dit que ça marche, ben ça va marcher. Moi, c'est à elle que je fais confiance. Puis c'est ça que ça voulait dire. Puis ce message-là, je l'avais vraiment trouvé puissant. Puis moi, ça m'avait donné confiance aussi, tu sais, d'être capable de prendre le ballon puis mm-hmm. de le porter. pour vrai. Là.
Nous autres, de l'externe, on a vu un Régis Labeaume, t'es mordant. On a vu un Régis Labeaume, t'es proche de l'intimidation, même dans des propos en conférence de presse. Il est comment à l'interne?
À l'interne, moi je l'ai bien vécu. Je sais que c'est pas la même. Je sais que c'est pas tout le monde qui a vécu ça comme ça. Il a été très, très bienveillant à mon égard. Puis en même temps, il n'y avait rien de gratuit. Là. J'ai jamais rien eu sur un plateau d'argent. Il était très exigeant. Je l'ai échappé une fois ou deux sur un dossier. Puis je l'ai su, me l'a dit, là, tu sais,
Il n'a pas passé par quatre chemins.
Il n'a pas passé par quatre chemins, mais en même temps, c'était pas des insultes, c'était juste raide, là. Mm-hmm. Mais jamais tombé dans le personnel ou dans les insultes ou dans... c'était pas ça du tout. C'était juste très raide, puis il fallait que ça avance. Mais en fait, il était très axé sur les résultats. Fallait qu'on livre, là, tu sais. Fait que c'était ça qui venait avant tout. Puis sur cette question-là, qui est super intéressante, puis évidemment, mais je laisserai plus Régis Labeaume en parler lui-même. Je te parlais de balado tantôt. Le dernier balado que j'ai fait, c'est avec Régis Labeaume.
Oh, wow!
Dans le cadre de son documentaire qui s'appelle « Pourquoi faire encore de la politique? » Puis ça va être diffusé la dernière fin de semaine du mois d'octobre, juste avant l'élection municipale.
Je vais écouter ça avec un grand plaisir.
Il en parle notamment de son attitude, puis qu'avec le recul, il y a des regrets par rapport à ça, puis que c'est pas ce qu'il souhaite dans un environnement de travail.
Oui, ouais, exactement. Je pense qu'il y a énormément de pression tant lorsqu'on est conseiller municipal qu'il y a maire de la Ville de Québec, je me trompe-tu?
Il y a autant de pression.
Vous vivez de la pression, veut pas, là, surtout avec ce qui se passe sur les médias sociaux à l'heure actuelle.
Oui, puis je pense pour vrai que les médias sociaux, ça a accentué ça. Puis les gens parlent beaucoup des insultes, ce genre de choses-là. Bon, oui, ça nous atteint, évidemment. Mais je pense que ce que ça a transformé les médias sociaux dans dans le contexte politique, c'est la réactivité. Qu'on est obligé maintenant d'avoir une opinion tout de suite sur quelque chose ou une solution tout de suite sur quelque chose.
Pas le temps de réfléchir.
Pas le temps de réfléchir. La pression est encore plus grande parce qu'on n'a plus cet espace-là pour s'asseoir, dire « OK, je prends acte de la situation, je réfléchis, je consulte des gens, j'évalue mes options, j'en choisis une et je la présente. » Toutes ces étapes-là sont escamotées, tout ensemble, puis là, ça devient « je dois réagir tout de suite ». Et maintenant, puis il faut pas que je me plante.
C'est-tu trop?
Non, parce que j'aime ça, puis je fais ça. c'est-tu trop? Je pense qu'il faut quand même un certain tempérament pour faire de la politique, tu sais, pour être la face qui présente ça, puis qui reçoit en retour ce que les gens en pensent. Il faut avoir un certain tempérament. Ça peut assurément être trop pour certaines personnes. Mais je pense pas qu'en général, c'est trop. Je pense que c'est sûr qu'il y aurait des choses à améliorer, là, ça, c'est clair.
En début de podcast, tu nous parlais justement d'écouter des podcasts du New York Times. Tu penses quoi de ce clivage-là aux États-Unis, justement, gauche-droite, médias sociaux, appel à la violence? Il y a un climat particulier là-bas.
Oui, il y a un climat très particulier. Je suis un peu découragée quand je regarde ça, tu sais, la tangente que ça prend. Je vais te donner un exemple, là, mais moi, je travaille, c'est ça, de ce temps-ci, puis je me dirige vers une carrière dans le milieu académique. J'ai assisté à une conférence avec un groupe de recherche, puis la chercheuse vient, c'est une chercheuse américaine qui travaille sur la représentation des femmes dans les médias, qui est un sujet qu'on connaît, ben oui. Là, comment les femmes sont traitées différemment des hommes. Mm-hmm. Par exemple, à la fois les journalistes, les expertes ou les politiciennes, par exemple. Puis, elle commence sa conférence en nous avertissant, ça se passe au printemps là, 2025, elle commence sa conférence en nous disant, je vais vous demander de ne pas prendre de photos, de ne pas publier sur les médias sociaux, de faire très attention, parce que le sujet dont je traite, il n'est pas bienvenu dans mon pays, et je pourrais avoir des représailles.
Et elle est native des États-Unis?
C'est une Américaine.
C'est une Américaine. Donc, elle pourrait avoir des représailles parce qu'elle dit on traite les femmes différemment dans les médias. Alors, il y a un mouvement masculin très fort, c'est ce que je comprends?
Bien, oui, puis il y a un mouvement, en fait, qui vient... tout ce qui est associé à la gauche, tout ce qui est associé au wokeness, là,
oui.
Wokeism, il y a un mouvement, puis on a entendu parler, tu sais, sur cette répression-là, finalement, du milieu académique, de la recherche, tout ce qui vient appuyer avec des données certaines revendications de la gauche liées à l'équité ou à la parité ou toutes ces choses-là, c'est pas bienvenu. Non seulement c'est pas bienvenu, mais on essaie de réprimer ça aux États-Unis. Puis moi, ça m'a frappée parce que c'est le discours qu'on entend d'habitude quand tu lis un livre, t'écoutes un film, puis t'as un, je sais pas là, un chercheur, tu sais, de la Corée du Nord, là, qui dit « Je peux pas faire ça dans mon pays. » Fait que, tu sais, c'est vraiment...
C'est pas un chercheur aux États-Unis.
C'est pas un chercheur. D'habitude, t'entends pas ça de la part d'un chercheur aux États-Unis. Fait que, pour moi, ça a été comme un déclic de dire « OK, c'est pas juste... C'est pas passager, tu sais. Les gens qui sont là, ils ressentent assez profondément pour pouvoir, pour nous l'exprimer, nous mettre en garde. » je pense que ça m'a brassé cet événement-là.
Moi, j'allais te poser la question, ça te fait-tu peur?
Quand même, ça me fait peur. Là. Je pense que j'ai lu trop de Margaret Atwood. Là. Je suis comme... je sais pas. J'essaie de me rassurer sur le fait que ce mandat-là, il peut juste durer encore 3 ans et demi. Mais en même temps, si ce mouvement-là, MAGA, prend une ampleur et réussit à se transmettre finalement vers une autre personnalité qui peut prendre le flambeau aussi bien que Donald Trump, combien de temps ça peut durer? Puis c'est sûr que ça me fait peur pour les personnes qui sont là, qui vivent, tu sais, qui sont ostracisées, qui vivent toutes sortes de choses, mais c'est sûr qu'ici, de notre côté de la frontière, on n'est pas à l'abri de ça, tu sais. Je pense que ce mouvement-là, il est contagieux, malheureusement. Il peut se transmettre. C'est sûr que c'est les répercussions, notamment économiques, on les vit de plein fouet, tu sais. Notre économie est tellement imbriquée à l'économie américaine qu'on ne peut qu'en souffrir au final. Là.
Sens-tu qu'est-ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle pourrait justement décourager, empêcher, voire même restreindre des jeunes femmes comme toi à faire de la politique?
C'est sûr. C'est clair. C'est sûr.
Te serais-tu lancé en politique? Mettons qu'on change le temps. Là. On est en 2025, mais tu as 23 ans 2025. Te serais-tu lancé en politique dans les conditions actuelles?
Ici, c'est sûr. Là, si tu me poses la question, je me serais-tu présenté en politique aux États-Unis? Je sais pas. Je pense, j'y aurais pensé à deux fois, sûrement. Mais non, je pense que justement pour contrer ça, il faut agir. Fait que la solution pour moi, c'est pas de pas se présenter.
La solution,
au contraire, c'est encore plus de se présenter, encore plus de s'engager, puis encore plus de travailler pour qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des jeunes femmes qui y aillent, puis qui soient élues. T'sais, il faut ces voix-là parce que si on les a pas autour de la table, c'est là que je sens que des mouvements, comme on voit aux États-Unis, peuvent prendre l'ampleur puis atteindre nos institutions démocratiques.
On catégorise beaucoup les gens, puis pour les gens à gauche, on les traite beaucoup de woke. Fait que j'ai pas le choix de te poser la question. T'es-tu une woke?
Sûrement. Ben, tu sais, c'est ça. Ça dépend de la définition. Qu'est-ce qu'une woke, là? Je pense pas que personne ne m'a jamais accusé ou en tout cas jamais trouvé là, que j'étais trop intense là, dans mes prises de position, mes prises de parole. Je pense que fondamentalement, j'étais une personne de nuance. Puis quand je présente des dossiers aussi, il faut que je les travaille pour m'assurer qu'on les comprenne bien. C'est pas toujours évident là, avec le filtre médiatique qui fait en sorte que faut être capable d'exprimer une idée très clairement, très simplement. Fait que quand tu présentes une affaire avec plein de nuances puis plein de couches d'informations, c'est pas aussi évident. Fait que moi, je suis plus là-dedans, qui est une difficulté.
C'est-tu dur pour quelqu'un comme toi, là, qui fait un doctorat, donc qui est quelqu'un nécessairement de très intellectuel, très analytique, d'être obligé en politique de livrer un message en 22 secondes avec la phrase choc?
Moi, j'ai un bac en com, hein, fait que c'est sûr, des fois, ça revient. J'ai été attache politique aux communications pour un ministre, fait que c'est ça.
Les skills reviennent.
C'est comme les deux côtés de mon cerveau là, qui s'ostinent. Ben, pas qui s'ostinent.
Comment ça se bat dans ton cerveau?
Il y a comme une switch. Là. Je suis capable de venir répondre à tes questions au micro ou à radio, puis répondre avec des propos qui sont plus clippables, mettons. Là.
Ouais, oui.
Je suis capable. Est-ce que je...
Est-ce que t'aimes ça quand je vais te poser la question?
Bien, quand même. Je trouve que c'est un bon exercice. Puis je pense que c'est nécessaire. Puis en même temps, tu sais, on en parlait tantôt avant l'enregistrement, cette complémentarité-là entre la radio, la télé, les médias traditionnels et le podcast avec un format plus long où on peut creuser davantage des sujets. C'est très complémentaire. Fait que je pense que c'est important d'avoir cette portion-là plus courte parce que la réalité de la plupart des gens, c'est qu'ils rentrent dans leur auto le matin, ils ouvrent la radio, ils font leur trajet de 10, 20, 30 minutes. Puis, il faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe chez eux puis à travers le monde. Mais ils n'ont pas nécessairement le temps d'aller écouter puis d'aller lire toutes les nouvelles qui existent. Là. Fait que d'avoir juste cet accès-là, moi, je pense que c'est vraiment beaucoup une question d'accessibilité. Puis je trouve ça parfait. Je pense que c'est vraiment important. Puis après ça, ben, il y a d'autres formats qui existent pour quelqu'un qui veut aller creuser davantage.
Je suis une jeune fille de 22, 23, 24 ans qui nous écoute à l'heure actuelle. Tu dis quoi à cette jeune fille-là qui veut commencer en politique?
Moi, j'ai pas trouvé de formule magique encore parce que pour moi, quelqu'un qui veut, puis surtout une jeune femme qui veut aller en politique, doit aller en politique, je veux dire. Puis souvent, les jeunes femmes se posent des questions. Est-ce que je suis capable? J'ai pas assez d'expérience? Je connais pas tout? Puis ça, je l'entends tout le temps. Des femmes qui viennent me voir puis qui veulent conseil, puis sont comme, tu sais, peut-être que je devrais attendre 4 ans encore parce que je connais pas tous les dossiers sur le bout de mes doigts. Puis si un journaliste me pose telle question sur la construction du centre Vidéotron, il y a 10 ans, je serais pas capable de répondre. Puis j'essaie de casser ça. T'as pas besoin d'être parfaite. T'as pas besoin de tout connaître. On a besoin de toi autour de la table. Fait que c'est un peu ça ma réponse, finalement. Si cette personne-là y pense, elle doit le faire. Mm-hmm. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut démystifier la politique. On a besoin d'être 100 % prêt. Il n'y a personne qui est 100 % prêt à aller en politique. C'est impossible de connaître les affaires. Il n'y a pas d'école de la politique. On apprend sur le tas. C'est de même que ça se fait.
T'as pas besoin d'être parfaite. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette phrase-là. D'un autre côté, les politiciens admettent rarement leurs erreurs. Pourquoi?
Pourquoi? Ouais,
moi, je trouve que ça ferait plus humain. Ouais. Moi, quand je fais une erreur, je le dis à ma blonde ou à mes enfants. Hey, guys, je viens de me tromper.
C'est drôle, moi, je trouve que François Legault, de ce temps-ci, admet pas mal souvent ses erreurs.
T'as raison.
On dirait qu'il y a comme peut-être un changement sur ce ton-là, pas juste de sa part, mais je pense que c'est plus. Peut-être qu'à une certaine époque, c'était pas accepté ou qu'il fallait avoir cette image-là que. T'es fort, t'es solide dans tes affaires, puis tu peux pas faire d'erreur. Tu sais, ou t'es quasiment surhumain. Cette idée-là qu'on se faisait des politiciens plus traditionnels. Je pense que ce modèle-là, il change. Je pense que les politiciens se rendent compte que c'est apprécié quand on est capable d'admettre nos erreurs, de dire, bon, là, je l'ai échappé, puis d'aller plus loin, finalement, là-dedans. Là, je pense qu'on est tanné, finalement, de se faire dire, non, tout est correct, là, j'ai bien fait mes affaires. C'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre.
Oui, ça, c'est vrai, on l'entend beaucoup. On l'a entendu beaucoup avec sa clique. Là. C'est un peu de la faute de tout le monde, mais de personne en même temps. Là. Yes. Cool. Je reviens sur Régis Labombe. Quand il décide de quitter, il dit « OK, j'en fais pas d'autres mandats. Toi, tu viens de commencer en politique. As-tu pensé aussi quitter? As-tu pensé changer de parti politique? Qu'est-ce que ça t'a fait pour toi que ton mentor et l'homme qui t'a fait confiance à 23 ans, de confier à la culture, décide de partir? »
J'ai pas eu de ce sentiment-là de vouloir le retenir d'une certaine façon. Là. Moi, ce que j'ai prix de tout ça, c'est la beauté de pouvoir choisir pour soi, de pouvoir se choisir en politique, qui est un peu le choix que je fais aussi, moi, aujourd'hui, en quittant la politique. Puis Régis Labombe, après 14 ans de mairie, ben, je pense qu'il méritait ça. Il méritait de choisir quand et comment il allait quitter la politique. Puis, je pense que j'ai beaucoup appris de ça. J'ai trouvé ça beau. Puis on dirait que j'étais comme fière de lui, finalement, d'être capable de faire ce geste-là. Parce que je suis persuadée qu'il aurait voulu poursuivre le projet de tramway, poursuivre ses différents projets. T'sais, tu veux voir la fin de ce que tu as entamé, finalement. Là. Puis c'est sûr que l'arrivée de Marie-Josée Savard, ben, ça m'a ça m'a beaucoup enthousiasmée. T'sais, c'est une femme exceptionnelle. J'étais vraiment très heureuse de me présenter avec une femme à la mairie. On dirait que ça venait un peu... Ça venait compléter dans ma tête là, ces modèles-là que j'ai eus dans ma vie comme patron. J'ai eu vraiment des bons patrons. J'ai vraiment été chanceuse sur ce plan-là. J'ai eu Pierre Thibault, qui est l'architecte,
oui,
avec qui j'ai travaillé. J'ai eu Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation. Mm-hmm. Régis Labeaume. Puis on dirait qu'il manquait une femme dans ce portrait-là. Puis ça a été Marie-Josée Savard, avec qui j'ai travaillé 4 ans. Ouais. Puis j'étais vraiment contente de faire cette campagne-là.
Cette fameuse soirée électorale où elle est nommée gagnante et finalement elle perd, coup de poignard dans le cœur.
Ah, c'était le supplice de la goutte aussi, hein, parce que la page se rafraîchit, je ne sais pas, à chaque 12 secondes. Puis là, les chiffres, tu sais, les votes s'égrènent. Puis là, l'écart se rétrécit. Puis à un moment donné, il y a eu le moment où positions changent. Bruno Marchand est en tête.
À la minute où ça change, là, vous le savez, qu'elle part parce que là, la tendance est installée.
Même avec la tendance, tu sais, même avant que ça change, là, on le voyait venir là, un peu partout. On était sur scène pendant que Marie-Josée faisait son discours de victoire. Puis il y avait de la tension dans l'air. Des gens qui avaient des candidats qui était élue, réélue. Moi, je me souviens, j'avais Suzanne Véraud juste à côté de moi. Elle avait son cellulaire. Elle venait d'être déclarée élue. En tout cas, équipe, il avait dit, Suzanne, ça va super bien, t'es élue, il n'y a pas de problème. Elle est sur scène, puis elle commence à voir les chiffres changer. Pendant le discours de Marie-Josée qu'elle apprend qu'elle n'est pas élue, finalement.
Ouch.
Fait que c'est crève-cœur pour Marie-Josée, mais pour t'sais, toutes ces personnes-là qui ont... Qui pensait que ça allait bien, finalement. Là, ça, vraiment, ça, là, cette soirée-là, c'est surréel. Là, c'est vraiment... Puis on m'en parle encore aujourd'hui. Et on dirait que ça a beaucoup marqué l'imaginaire. Là.
Vraiment. Ouais. Être dans l'opposition, est-ce que c'est frustrant?
Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais en même temps, pas tout le temps. T'sais. Puis moi, j'ai tellement apprécié cette expérience-là de pouvoir faire les deux. D'avoir eu la chance de faire 4 ans au pouvoir avec une équipe fortement majoritaire puis un méchant capitaine de bateau, là, en Régis Labeaume. Mais après ça, de faire un mandat dans l'opposition avec un conseil plus fragmenté, davantage d'opinions puis de partis politiques représentés, un maire qui a été élu minoritaire au début du mandat, deux contextes très différents. Puis pour moi, ce qui a été plus compliqué, mais intéressant et très stimulant à faire, ça a été la transition entre passer du pouvoir à l'opposition, dans le sens où il fallait que je change mon mindset. Là, j'étais plus une représentante de la Ville de Québec et de ses politiques. Là, je devenais d'abord et avant tout une représentante de mes citoyens auprès de la Ville de Québec. Puis de plus avoir à défendre systématiquement la Ville dans ses prises de position ou ses différentes politiques ou ses choix, c'est quand même un peu libérateur d'une certaine façon. Tu sais, quand tu es au pouvoir, tu as cette responsabilité qu'on appelle la responsabilité ministérielle d'être un peu, finalement, ou du moins en apparence d'accord avec tout, qui est nécessaire et important.
Tu sais, gestionner bien comme il faut sur une décision à l'interne?
Pas moi. Ben moi, j'ai tenu mon bout sur des projets culturels. J'ai tenu mon bout sur la piscine de Vanier. Mais j'ai pas eu à défendre une affaire, là, puis à sortir de la ligne de parti.
OK.
Mais j'ai été témoin de ça, par contre. Notamment avec Suzanne Véraud, qui a voté contre, à une ou deux reprises, si je me souviens bien, du projet Laurentia, qui était dans son district. Là, pour elle, ça passait pas. C'était pas acceptable.
Elle a mis le citoyen avant le parti.
Ouais. Mais ça, c'est l'exception à la règle. C'est sûr que c'est le genre de choses qu'on voit très, très rarement. Régis le comprenait. Puis il a dit, c'est parfait, Suzanne, je comprends. Vas-y, vote comme tu le sens. Moi, je continue avec mes affaires. Au final, c'est lui qui décide, mais je t'en tiendrai pas rigueur. T'sais, fait que il y avait quand même, malgré tout ce qu'on pense, il y avait de la place pour ça, un peu. T'sais. Mais c'est sûr qu'il faut montrer un front commun quand tu es au pouvoir. Puis quand tu es dans l'opposition, mais tu n'as plus besoin de faire ça. T'sais. Fait que là, tu peux être en désaccord avec ce que la Ville de Québec fait. Puis il y a une portion dans tout ça qui est libératrice puis qui est le fun aussi, là, de dire, ben non, je suis pas
c'est
d'accord.
C'est ta petite portion rebelle de ouais, corps et rouge d'étudiant.
Oui, qui est ressortie, là, puis j'ai redécouvert des années plus tard. Je pense que dans l'opposition aussi, ce qui est le fun, tu sais, au pouvoir, la machine roule, tu sais, t'es dans le train, puis tu suis.
Ça roule-tu trop vite, des fois?
Non, je pense pas. Je pense que c'est quand même un bon rythme. Dans la ville de Québec, là, des fois, je trouve que ça roule pas assez vite là, sur certaines choses. Là, mais
ça roule pas assez vite présentement avec Bruno Marchand?
Il y a des choses qui roulent pas assez vite. Ça, c'est sûr. Là, en termes de logement, là, je trouve qu'on n'est pas à place où on devrait être. Puis dans l'opposition, ben, c'est comme si tu peux rentrer dans un wagon, puis en ressortir, puis aller dans un autre wagon, puis plus te promener finalement à travers tout ça, puis t'es pas obligé de suivre le rythme qui est imposé par la machine administrative.
Oui, je comprends très bien. Du côté de, justement, l'administration actuelle, t'as vécu des événements d'intimidation en 2024. Est-ce que ça fait partie du fait que tu quittes la politique?
Non, ça fait pas partie du fait que je quitte. Ça fait partie, par contre, tu sais, ça joue sur la fatigue.
Ouais.
Ça, c'est clair. La fatigue accumulée, qui est normale, je pense, en politique, là, ça use, là, on le dit souvent.
T'as senti usé présentement?
Je pense que je le vois venir. Puis, tu sais, je décrivais ça récemment à quelqu'un. Je suis pas rendue là. Le timing est bon. Je suis pas rendue à ma limite. Je me sens pas usée, mais je veux pas me rendre là. Puis, 4 ans, c'est quand même long. Fait que il y a une portion de ça. Je sens quand même mon niveau de cynisme qui a augmenté en 4 ans. Puis, mon niveau d'empathie qui a descendu en 4 ans. Fait que ça, pour moi, c'est des indicateurs.
Puis comment tu l'expliques?
Outre
la fatigue?
Oui, outre la fatigue, je pense que c'est beaucoup la fatigue.
Oui,
ouais, beaucoup ça. Il y a un peu aussi dans la portion du changement entre le pouvoir et l'opposition. Tu as parlé de frustration aussi tantôt, puis je pense que c'est un très bon terme. L'impuissance, ce sentiment-là.
Ouais.
Nous autres, on l'a vécu beaucoup dans les rivières où nos enjeux, les projets, ils viennent jamais dans notre coin. Ils viennent jamais dans les quartiers qui sont représentés par des élus de l'opposition parce qu'on n'a pas l'accès au maire, parce qu'on n'est pas à la table des gens qui décident.
Bruno Marchand, fais-tu la petite politique, justement, comme ça, en disant « Hey, les conseillers de l'opposition, je les laisse de côté pour pouvoir en ratisser plus large plus tard? »
Oui, il fait certainement de la petite politique là, sur différentes choses. Là. Le choix aussi de venir présenter des projets sans mettre le conseil municipal du secteur dans le coup. Ça, je pense que c'est vraiment de la petite politique, là, de venir finalement, tu sais, cette intention-là d'aller chercher tout le capital politique disponible pour un projet, plutôt que de faire ça de la bonne façon, d'inclure toutes les parties prenantes, puis peut-être d'aller chercher aussi un feedback de quelqu'un qui connaît son monde, qui connaît son coin pour ouvrir. Là. On l'a vécu avec Unité Née, par exemple. Ça a vraiment suscité beaucoup, beaucoup de mobilisation. Puis une des raisons pour moi de ça, c'était de venir imposer le projet sans même me le présenter ou m'en parler avant. Bien, c'est sûr que après ça, pour l'élu de l'opposition, comment tu veux essayer d'expliquer un projet que tu connais pas, de défendre une décision à laquelle tu n'as pas participé? Je pense que ce serait plus stratégique pour faire passer réellement des projets quand tu viens inclure l'élu de l'opposition. Puis tu peux t'assurer finalement un peu de son appui ou de sa participation à ça, mais tu viens atténuer des tensions. T'sais. Cette personne-là, après ça, elle ne peut plus se lever et dire « Ben non, je ne suis pas d'accord. » a fait partie de la décision, tu sais, a fait partie de ce processus-là. Fait que si tu parles de petite politique, je pense que si l'intention, c'était que ça marche, ça se ferait autrement.
Oui, je comprends. Donc, dans le fait qu'il avait dit « je vais faire de la politique autrement », il a fait pas autrement du tout.
Ben non, ça, on a été témoins quand même, puis ça a pris le bord assez vite, là, dans les 6-12 premiers mois. Moi, l'exclusion de Véronique Dallaire, responsable de l'accessibilité universelle, Bruno Marchand qui se gargarise de ça, puis c'est donc important pour lui. Puis après ça, première opportunité qu'il a de l'exclure du comité exécutif pour entrer Jean-François Gosselin. Je non, ça, c'est pas de la politique autrement.
Oui, exactement. Est-ce que tu avais déjà approché parce qu'il cherchait désespérément une majorité là, après sa première élection? Est-ce que tu avais approché pour tenter de t'attirer?
Non, pas pendant le mandat. Moi, j'ai été approchée par des gens qui gravitaient autour de lui en 2021, avant l'élection, campagne. C'est ça. Puis dans les derniers mois, là, par quelqu'un qui disait qu'il n'était pas sur une mission, là, donc c'est pas à la demande du maire là, de me présenter dans son équipe. Après ça, moi, je pense pas qu'il me prendrait dans son équipe, de toute façon. Là, fait que c'est pas.
Donc, on t'avait approché comme Pierre-Luc Lachance. T'en avais-tu jasé avec Pierre-Luc? Parce que Pierre-Luc était dans votre équipe avec Régis Labonte.
Non, c'est ça. Moi, j'ai pas jasé de ça avec Pierre-Luc. J'ai fermé la porte. Là. En fait, c'est un café qu'on me proposait. Puis j'ai fermé la porte tout de suite. Là. C'était pas quelque chose qui m'intéressait.
D'accord. Tantôt, t'as laissé. Tu nous as dit, je vais aller dans le milieu académique. C'est quoi que tu rêves comme travail?
Bien, ce que je rêve comme travail, c'est d'être professeur. Ouais. J'aimerais ça monter mes cours à l'université, enseigner au deuxième, troisième cycle, au premier cycle aussi, là, au bac, ce serait super. Là, j'ai quand même des petites choses là, qui se préparent. Fait que je vais avoir une première charge de cours à l'ENAP, un cours obligatoire à la maîtrise, merci, dès le mois de janvier. Fait que ça commence vite. Au mois de janvier aussi, là, je fais une formation en diplomatie municipale avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. J'ai des projets de recherche. Puis à travers tout ça, je vais essayer de finir ma thèse.
Donc, tu demeures occupé même si tu seras pas en politique.
Mais mon rêve, ce serait ça. Ce serait de faire vraiment là, des cours sur... Sur les relations internationales, les villes, la diplomatie municipale. Le municipal, c'est le parent pauvre de la science politique en général. Fait que de venir construire finalement autour de ça, là, ça m'intéresse beaucoup. Hein.
As-tu déjà rêvé être mairesse de Québec?
J'ai pas rêvé. Non, je rêve pas. J'ai pas rêvé être mairesse de Québec. C'est comme quelque chose qui est dans l'air. T'sais, j'ai été approchée, j'ai reçu des gens qui ont dit qu'ils aimeraient ça me voir mairesse de Québec, puis je suis pas quelqu'un qui ferme la porte. Puis, tu sais, je l'ai dit, là, en annonçant que je quittais la politique municipale aujourd'hui, on me dit, tu vas-tu revenir en politique? Sûrement. Tu sais, j'ai 31 ans, fait que sûrement, j'aime trop ça. Fait que j'apporte de la nuance là-dedans en disant, je rêve pas, j'ai pas rêvé d'être mairesse, mais c'est pas quelque chose que j'exclus, là, parce que on connaît pas la suite, on sait pas, on sait pas ce qui peut se passer, mais c'est pas un objectif.
Tu as été en politique provinciale, justement, dans le cabinet du ministre Sébastien Proulx, je pense, c'est bien ça. Est-ce que c'est une avenue que tu pourrais envisager, la politique provinciale?
Quand même, moi, je pense que je trouve ça très intéressant. Puis on dirait que, tu sais, après 8 ans, presque 15 ans de politique active, 8 ans comme élue au municipal, on dirait que je suis prête à essayer autre chose. Mais c'est sûr que ce ne serait pas l'année prochaine, par exemple.
Oui, c'est ça, j'allais te poser la question. Si le téléphone sonne pour 2026, c'est comme le café, tu y vas pas?
C'est ça, j'ai trop de projets. Puis je pense que ça va me faire du bien aussi de prendre une pause, là, de me déposer. Je suis beaucoup dans une recherche d'identité aussi. Là, quand on a été en politique aussi longtemps, je dis aussi longtemps, mais dans la durée de ma vie, là, c'est toute ma vie adulte là, comme élue à la Ville de Québec. Qui suis-je, finalement, là, à travers ça, sans mon titre de conseillère municipale?
C'est intéressant, ça.
Ouais,
qui es-tu, justement?
Bien, je me pose la question. Fait que je suis à la recherche de ça, tu sais, comment j'existe à l'extérieur de ce rôle-là, comment je me construis aussi, je continue de construire mon identité sans ça, ou en puis d'être plus, finalement, qu'une ex-élue, tu sais, qu'une retraitée de la politique. Ouais. Là. Fait que c'est un processus en ce moment là, dans lequel je suis. J'ai rencontré Maxime Pedneau-Jobin récemment qui me donnait des super conseils parce que c'est pas facile. Puis, tu sais, on a du soutien. Là. Je pense que c'est pour ça que les élus ont du soutien. Moi, je sors de ça. C'est quoi ma vraie expérience professionnelle? Tu sais, ça compte-tu? J'ai fait mon CV académique récemment, puis conseillère municipale, c'est une ligne, là, tu sais. C'est 8 ans
mais
de ma
une
vie,
ligne
là.
Qui en prend énormément dans ta carrière,
Peut-être, mais tu sais, dans le milieu dans lequel je suis, on n'engage pas du monde parce qu'ils ont été en politique, tu sais. Puis des fois, il y a des biais par rapport à ça, fait que il y a un bagage aussi que tu traînes sur les positions que tu as prises par le passé, sur les différents événements, sur tout ça. Fait que, ouais, fait que c'est un processus qui n'est pas fini. Puis c'est ça, Maxime, il me disait, tu vas voir, tu sais, tu l'as pour quelques mois après ça. Là. Le 3 novembre au matin, je me réveille, je ne suis plus élue. Puis là, il y a une frénésie autour des nouveaux élus, toutes sortes de choses. Mais ça se peut que le 4 janvier, je me réveille, puis tu sais, j'ai pas ma revue de presse, j'ai personne qui m'écrit. Ce vide-là, il est un peu épeurant quand même. Ouais.
T'as un bac en com, voudrais-tu faire des médias? Commenter la politique?
Sûrement, oui. Ça, j'aimerais ça. J'avais un rêve, mais là, on en parlait tantôt, mais mon chum se présente à la mairie de Val-d'Or. Oui. Fait que là, le 2 novembre au soir, je vais sûrement être avec lui.
Ouais, ça va être frénésie ou déception.
C'est ça, exact. Mais avec un ami, on jasait, tu sais, on est deux mordus de politique municipale. On était comme, hey, on devrait faire un genre de, tu sais, de commentariat en direct pendant la soirée électorale dans un bar, un peu comme un commentaire d'un match de hockey. Ouais. Là, ça serait malade. Là, fait que...
Ah, cool! Ouais. C'est normal,
ça
c'est
serait le fun. En tout cas, c'est pas un projet concret, là, mais ce genre de choses-là, là,
Bref, tu donnes le temps de réatterrir sur tes pieds, puis après ça, justement, de voir où la vie va t'amener.
Oui, puis de me donner le temps de bien faire les choses aussi, puis d'avoir une transition qui est douce, puis de prendre soin de moi aussi à travers tout ça. Je pense que c'est important. Là.
Sens-tu que tu t'es délaissé avec les années?
Oui. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, ça va vite. On fait des choix. Le sommeil, notamment, les bonnes habitudes alimentaires, de manger à des heures régulières.
L'entraînement, tu parlais de l'entraînement, train dans le début de podcast.
C'est sûr que l'entraînement, c'est pas facile. Moi, je me suis blessée au genou. Fait qu'il a fallu que je commence à m'entraîner à cause de ça. Puis finalement, maintenant, j'aime ça. Mais mon problème, c'est que je suis capable d'être régulière, d'aller au gym, mettons, à tous les jours pendant 5 jours. Puis après ça, il y a de quoi qui se passe. Puis là, je ne suis plus capable d'y aller pendant 8 jours d'affilée. Mais après ça, y retourner, c'est vraiment difficile.
Ouais, c'est difficile de se motiver à nouveau, je comprends.
Fait que cette constance-là est vraiment pas évidente.
Mm-hmm. Crains-tu d'avoir une vie trop relaxe?
Oui, c'était une inquiétude, ça ne l'est plus.
OK, ouais. Pourquoi?
Parce que là, j'ai trop de projets. Là. Puis, fait que là, faut que j'essaie de bien gérer ça aussi pour me donner justement ce temps-là dont je pense que je ressens que j'ai besoin là, de pouvoir atterrir puis de bien faire les choses. J'ai un voyage qui se prépare au mois de janvier avec mon amie Véronique Dallaire qui va avoir 40 ans l'année prochaine. Fait qu'on va aller fêter ça en Martinique.
Wow.
On va se prendre quelques jours.
C'est vraiment plaisant.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est dans mes projets, mais j'ai pas peur... J'ai pas peur de m'ennuyer, non. Mm-hmm. Ouais.
Vas-tu t'ennuyer de Québec?
Oui.
Oui.
Ouais. Ouais. Ça, oui. C'est encore très frais. Tu sais, puis je suis beaucoup là-dedans. Puis il y a une recherche aussi à la fois d'intégration à ma nouvelle communauté de Val-d'Or, puis en même temps de trouver comment garder un lien fort avec ma ville natale, qui, tu sais, qui va toujours rester ma ville. Ma mère est ici, ma famille est ici, mes amis sont ici. Je suis en discussion en ce moment, j'essaie de voir comment continuer d'être impliquée, notamment sur des conseils d'administration d'organismes culturels après les élections, évidemment. Fait que je pense que ça pourrait être une bonne façon, même à distance, de continuer d'être impliquée, de continuer de faire profiter aussi de mon expérience, de ce que je connais. Tu sais, je termine, il me reste encore un bon bout, là, mon doctorat en administration publique, mais j'ai une maîtrise en administration publique qui peut être super intéressante là, pour ces organismes-là. Là. Mm-hmm. Donc, je vais m'ennuyer de Québec, c'est sûr.
Alicia Lépine est une belle et bonne personne. Merci d'avoir donné autant de temps en politique ici à Québec. Je te souhaite la meilleure des chances dans tes projets futurs. T'es rayonnante, t'as les yeux qui pétillent. Je suis certain que la vie va t'amener des belles choses.
Merci beaucoup.
Et merci d'avoir participé à ce podcast, le podcast hors série. T'étais mon premier podcast.
Je suis tellement contente. Là.
C'est le fun,
je suis toute excitée. Là.
Moi aussi, je suis vraiment excitée. Ouais. Merci beaucoup. Écoute, on vient de jaser pendant une heure, puis je pense que j'aurais jasé encore pendant des heures et des heures. Donc, t'es vraiment quelqu'un de très, très, très. T'es une personne très intéressante.
Bravo. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Salut.
Le podcast hors série. Une présentation de Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts, de la micro d'exception à la micro de soif parfaite. Deux succursales, Beauport et Saint-Émile. Santé!